Le Corse et l'Auvergnat.
Jérémy Gallon.
Romain Marcilli.
Bonjour Romain.
Bonjour Jérémy.
À l'issue d'une semaine riche sur le plan diplomatique, et alors que la France poursuit son très beau parcours au Qatar, nous sommes très heureux de vous retrouver.
Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis.
Mais aussi la visite, dans un contexte compliqué, du président du Conseil européen Charles Michel en Chine.
Un discours de François Sureau sur le courage qui nous a fait réfléchir.
Et nous conclurons cet épisode, comme chaque semaine, par nos coups de cœur.
Jérémy, la semaine dernière fut marquée par deux voyages aux fortes ambitions annoncées. La visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis et un voyage en Chine de Charles Michel pour rencontrer le président Xi Jinping. Commençons par parler de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Nous avions parlé dans notre épisode précédent des grands enjeux de la rencontre Biden-Macron. Cette visite s'est déroulée dans une atmosphère présentée comme amicale, très amicale, dans un faste certain et un peu décalé peut-être au moment où en France, les quotidiens faisaient leur une sur les pénuries et les coupures d'électricité possibles, sinon probables. Et puis le bilan de cette visite fut parfois présenté de manière dithyrambique. Donc je voulais savoir ce que tu en pensais.
Alors c'est vrai que tu parles de un petit peu du caractère décalé de la visite d'État. C'est vrai que c'est toujours le risque quand tu as des visites diplomatiques, c'est la déconnexion entre un voyage diplomatique et l'actualité politique intérieure. On se souvient, il y a des exemples célèbres, mais moi j'ai toujours été frappé par notamment en mai 1968, c'est 10 jours de visite que Georges Pompidou passe d'abord en Iran et en Afghanistan, alors que c'est le début des événements de mai de 68. Et j'ai toujours trouvé fascinant de voir que, alors qu'il est Premier ministre, les événements se passent à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça l'empêchera pas derrière de revenir et d'être l'homme qui finalement gérera la situation au mieux. Dans un cas quasiment inverse, on peut se souvenir aussi de visites triomphales du Shah d'Iran à l'étranger, alors que son régime s'apprêtait à s'effondrer. Alors, sans aller jusque-là, évidemment, il y avait effectivement une visite d'État. On l'avait dit, c'était la première visite d'État de l'administration Biden. Donc, c'était un symbole envoyé par les États-Unis, non pas au président Macron. Je crois qu'il faut tout de suite sortir de cette grille de lecture très tournée autour d'un homme que l'on a souvent en France, mais à l'égard de la France. En fait, une visite d'État, c'est d'abord la reconnaissance d'une amitié entre deux pays, de liens très forts entre deux pays, en l'occurrence pluriséculaire. Et donc, c'est vrai que je pense que à tous ceux qui véhiculent constamment une sorte d'anti-américanisme primaire en France, là, on a quand même le symbole de la part des États-Unis, qu'ils considèrent la France comme un allié de premier plan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une visite d'État sous l'administration Trump, et il y a aujourd'hui une visite d'État également pour la France à nouveau sous l'administration Biden. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les résultats concrets et tangibles qu'il y a eu lors de cette visite.
Oui, c'est justement la question, parce qu'on insiste beaucoup sur, effectivement, tous les symboles et le signe d'amitié envoyé à la France par les États-Unis et l'administration Biden est indiscutable. Mais on attendait quand même, étant donné le contexte autour de cette visite d'État, les rivalités, on va dire parfois le froid, notamment pour des questions liées aux échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe, on attendait des aspects concrets. Et là, dans le narratif médiatique tel qu'il a été présenté pendant et surtout après cette visite, il a été donné parfois l'impression que l'administration Biden avait donné un satisfecit aux requêtes de l'Europe et en l'occurrence du président Macron sur beaucoup de sujets, notamment les questions liées au protectionnisme. Moi, je suis beaucoup plus sceptique, notamment parce que le rapport de force politique n'est pas si favorable que ça, en tout cas les moins au président Biden au Congrès. Et puis, d'autre part, les ambitions étaient très fortes, mais ce qui a été communiqué par l'administration Biden semble assez léger. Donc on ne va pas faire de pronostics, mais est-ce que tu comprends et valides l'enthousiasme face à la réaction américaine?
Alors, je pense qu'il ne faut évidemment pas tomber soit dans un enthousiasme qui serait déplacé et non pertinent, soit à l'inverse, dans des critiques, je pense, trop excessives à l'égard de la visite d'État. on est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des déclarations communes fortes d'un rappel d'amitié, etc., mais qui ont un poids symbolique notable et qui sont importantes, évidemment, en plus dans cette période de tension très forte, à la fois transatlantique, mais surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine, où il y a un front occidental à réaffirmer. Ensuite, je pense que sur la visite elle-même, tu l'as dit, c'était une visite sur plusieurs jours. Il y avait d'abord un certain nombre de volets de coopération où on savait qu'il allait y avoir pas mal d'échanges sur le nucléaire, sur le spatial, où il y a eu des feuilles de route assez claires qui ont été établies. Et là, on va vers des axes de coopération assez forts sur le plan bilatéral. Ensuite, il y avait un gros sujet, et ça, on le savait avant la visite du président Macron, c'était l'Inflation Reduction Act. On en avait parlé dans notre dernier épisode ensemble. Pour un rappel très rapide, c'est grosso modo les États-Unis qui, par une législation adoptée au niveau intérieur, s'engagent à subventionner de manière massive leur industrie en faveur d'une transition vers des énergies plus renouvelables, en faveur de la lutte contre le changement climatique. Et donc, pour cela, ils prennent un certain nombre de mesures où ils disent que, notamment, un certain nombre de subventions ne seront accordées qu'à ceux qui produisent sur le territoire américain. Et donc, cela fait craindre aux Européens une forme de désindustrialisation et notamment dans l'industrie automobile. Et donc la question, c'était de savoir dans ce contexte-là, est-ce que le président Macron obtiendrait certaines concessions, certains gestes de la part de son partenaire américain. Alors d'abord, il faut savoir qu'on ne partait pas de rien. Enfin, il y avait déjà eu, comme tu peux t'en douter, des discussions qui avaient été amorcées par les Européens. Et ce n'est pas un sujet qui concerne simplement les Français, c'est un sujet qui concerne les Européens dans leur ensemble. Et aujourd'hui, déjà la première règle, c'est que quand on parle à un pays comme les États-Unis ou quand on parle par rapport à la Chine et quand on est européen, il faut toujours mieux montrer un front uni si on veut être capable de peser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui est clair, c'est que, et ça, tu le rappelais, la législation est une législation qui est passée sur le plan intérieur, qui est vue comme un succès pour l'administration Biden. Avec une majorité ténue, il était arrivé à la faire passer. Il est bien évident que Biden ne va pas détricoter une législation intérieure pour faire plaisir à ses alliés européens, aussi importante cette alliance soit-elle. Et on peut le comprendre, c'est tout à fait normal. Et puis par ailleurs, les Américains, comme les Européens, veulent préserver leur industrie. Donc on peut aussi, et on avait échangé là-dessus la semaine dernière, considérer que les Américains sont dans leur rôle lorsqu'ils défendent leur industrie par certaines mesures. Pour autant, il y avait probablement une marge de manœuvre. Et la marge de manœuvre, très concrètement, je vais te prendre un exemple concret pour voir où elle est. Si tu donnes un crédit, une subvention de 7 000 $, par exemple, pour un véhicule électrique produit aux États-Unis, dans le texte de loi actuel, cette subvention se décompose en deux volets. On va dire que tu as 3 500 $ qui vont au véhicule s'il est produit et assemblé aux États-Unis. Là-dessus, au final, les Européens auront très peu de marge de manœuvre parce que les Américains vont pas revenir là-dessus. En revanche, tu as 3 500 $ qui vont, dans le texte actuel, aux véhicules s'ils sont produits aux États-Unis ou bien s'ils sont produits dans un pays qui a un traité de libre-échange avec les États-Unis. Par exemple, le Japon ou la Corée du Sud. Et là, ce sur quoi les Européens essaient de jouer, c'est de dire, attendez, en fait, ce que vous vouliez dire quand vous avez écrit le texte, c'est un pays allié, pas nécessairement un pays qui a un traité de libre-échange. Et donc, c'est peut-être là où les Européens peuvent, entre guillemets, modifier à la marge le texte en faisant en sorte que ces 3 500 aillent non pas vers simplement les pays avec lesquels il y a un traité de libre-échange, mais on va dire les pays alliés, et dans ce cas-là, les Européens seraient compris. Et donc, c'est ce sur quoi vont se jouer les négociations des prochaines semaines. Il faut savoir qu'il y a une task force qui précède la visite de Macron aux États-Unis, qui réunit les Européens, les négociateurs, et notamment la Commission européenne et les États-Unis. Et c'est cette commission qui va travailler dans les prochains jours, prochaines semaines, pour essayer de trouver un accord. Mais là où tu as raison, c'est qu'il n'y a rien de garanti et qu'il y a aussi des élus au Sénat américain et au Congrès américain qui veulent absolument préserver ce côté, clairement souverainiste quasiment des États-Unis en termes de politique industrielle.
Souverainiste, mais comme tu l'as rappelé, ce n'est pas que 100% États-Unis, puisque les pays qui ont un accord de libre-échange lointain, comme certains pays asiatiques, Japon, Corée du Sud, mais également voisins, car le Canada et le Mexique sont directement impliqués, intéressés dans ce processus, donc c'est pas du tout un processus de fermeture sur les frontières américaines. Petite parenthèse, je crois qu'au moins cette affaire a le mérite de faire réagir un peu l'Europe. Il y avait une interview notamment du commissaire Thierry Breton à ce sujet. Les Américains, finalement, avec leur procédé, qui me semble plus que légitime de leur point de vue, ont le mérite de nous mettre face à nos responsabilités. Faites pareil aussi, si vous le voulez.
Tout à fait, et ça, je pense que c'est un point très important que tu soulignes. Parce qu'en fait, quand le président Macron, on va dire, attaque de manière assez dure les subventions américaines aux États-Unis, c'est un message qui porte évidemment auprès de ses interlocuteurs américains et notamment le président Biden, mais c'est aussi un message qui porte auprès de ses partenaires européens. Et en fait, ce qu'il dit à ses partenaires européens, c'est « ne soyez pas naïfs ». Peut-être qu'on n'arrivera pas finalement à obtenir toutes les concessions qu'on veut des Américains, mais la question plus fondamentale, c'est que nous-mêmes, il faut qu'on fasse notre travail sur le plan interne. Et notre travail sur le plan interne, ça veut dire quoi ? Eh bien, il y a deux axes aujourd'hui pour les Européens. Le premier axe, c'est potentiellement créer des mécanismes de subvention un petit peu similaires, c'est-à-dire une forme de réciprocité, sans entrer dans une guerre commerciale, mais simplement en étant pas les plus naïfs sur la planète commerciale, et donc en étant capable de mettre en place des subventions qui aussi sont d'abord destinées à ceux qui produisent en Europe, parce que le marché européen demeure un marché absolument crucial pour nos industriels et les industriels du monde entier. Et puis il y a un deuxième volet, c'est ce qu'on appelle le Buy European Act. C'est l'idée en fait d'acheter de manière préférentielle en termes de marché public, lorsqu'il y a des marchés publics qui sont lancés au niveau européen, d'acheter en préférence européen. Ce qui est aussi quelque chose qui existe déjà aux États-Unis. Mais là, l'Europe doit faire son travail. Juste un point là-dessus, la Commission européenne a souvent été critiquée pour être naïve dans le passé. Je pense qu'aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins. Il y a eu un vrai changement de logiciel côté européen. En revanche, et ça on le disait la semaine dernière, moi je pense qu'il y a certains États membres qui ont des traditions très libre-échangistes, notamment en Europe du Nord, où là, je pense qu'il y a effectivement plus de naïveté.
Oui, alors je ne suis pas autant rassuré que toi sur l'absence de naïveté. Si on parle d'un cas très précis et lié à la politique énergétique, tout ce qui a été décidé pour promouvoir la voiture électrique, et c'est plus que promouvoir la voiture électrique, mais c'est la rendre indispensable en bannissant progressivement et à horizon très, 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 très proche, les voitures à diesel et essence ne sont pas forcément très rassurants, puisque ce sont aujourd'hui des techniques qu'on maîtrise assez peu, finalement, sur le continent européen. En tout cas, notre industrie n'est pas assez poussée pour fournir la demande de tout un marché aussi grand que le nôtre. Et très clairement, dans l'état actuel des choses, qui ne sera bien sûr pas le même dans 15 ans, mais dans l'état actuel des choses, cela profiterait principalement à l'industrie chinoise. Donc des décisions politiques très volontaristes et qui partent peut-être d'un bon sentiment, promouvoir la voiture électrique, pourquoi pas, faut-il encore qu'on puisse produire de l'électricité et des batteries, ça favoriserait surtout l'industrie chinoise. Donc à voir comment tout ça va se goupiller. Ce qui est certain, c'est que ce coup de semonce venant de l'administration Biden, ces mesures anti-inflation et pro-industrie américaine peuvent être un révélateur, on va dire, au sens presque photographique du terme, de nouvelles perspectives pour l'Europe et de nouvelles manières de penser, espérons moins naïfs. Il n'y a pas eu que ça, cependant, durant cette visite d'État, il y a eu tout un volet, on va dire, lié à du soft power, lié à la francophonie, à la promotion de la francophonie, notamment par une excursion à la Nouvelle-Orléans.
Tout à fait, mais juste avant de revenir là-dessus, je trouve que le point que tu soulignais est très important. Parce qu'en fait, ce que tu rappelais entre les lignes, c'est que parfois l'Europe a dans le passé, mais encore aujourd'hui, pense trop souvent en silo ses politiques. Et donc fixe un objectif, par exemple environnemental, et dit on va passer au tout électrique, sans pour autant mettre ça, sans aligner cet objectif environnemental avec sa politique industrielle, avec sa politique en termes de comment acquérir un certain nombre de matières premières, lithium, etc., qui nous permettront de faire ce virage stratégique, en termes de politique commerciale. Et ça, c'est un vrai problème de Bruxelles et de la Commission européenne, c'est que parfois, elle travaille encore trop en silo. Et les différentes directions générales de la Commission européenne définissent des politiques de manière indépendante les unes des autres. Et là où tu as tout à fait raison, c'est qu'un des vrais défis pour l'Europe, un vrai défi pour les États membres européens, c'est d'articuler ces différents pans, et notamment nos objectifs climatiques, qui sont très nobles, et l'Europe doit jouer son rôle de leader sur le plan international, mais articuler ça avec une politique industrielle et une politique commerciale qui ne soit pas naïve, pour que cette politique en faveur de la transition climatique se fasse pas aux dépens des emplois et aux dépens du tissu économique et industriel européen. Alors ensuite, pour revenir à ton second point, c'est vrai que les visites d'État sont aussi, et tu le rappelais, un moment où tu mets en avant tes intérêts économiques, politiques, mais aussi des intérêts en termes de soft power. Et c'est vrai que dans sa délégation, le président Macron a amené avec lui un certain nombre d'écrivains, un certain nombre d'artistes, etc. Et puis, il y avait le dernier pan de la visite qui se déroulait à la Nouvelle-Orléans, évidemment avec l'axe que tu rappelais, c'était l'axe de la francophonie. On avait évoqué ensemble dans un épisode précédent combien aujourd'hui la francophonie parfois peine à se faire entendre, notamment l'Organisation internationale de la francophonie peine par rapport, par exemple, au Commonwealth. Et donc, c'est vrai que c'était important, je pense, qu'ils mettent en avant ce symbole.
Avec un programme intitulé en bon français « French for All » de manière à promouvoir l'apprentissage du français aux États-Unis. Bon, je plaisante.
Je te sens ironique.
Non, ce n'est pas illogique qu'un programme pour marketing, qu'un non-marketing pour pousser l'apprentissage d'une langue se fasse dans la langue locale. Donc moi, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là, on ne va pas pinailler. Là, en tout cas, on pourrait être un peu taquin si on voulait. C'est sûr, on va dire, les aspects parfois théâtraux de cette visite. On comprend très bien qu'il y a besoin d'envoyer des symboles. Je crois qu'aujourd'hui, les opinions publiques, peut-être par rapport à ce qu'il y avait il y a 40 ou 50 ans, sont plus habituées à la lecture de ces artifices de communication, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui en Europe, avec un sentiment d'affaissement. La crise énergétique, là aussi, malheureusement, révèle de nombreuses faiblesses structurelles en France, mais pas qu'en France. À son retour de Chine, le président Charles Michel, dans une interview donnée à de nombreux quotidiens européens, mettait en garde contre un affaissement, une perte d'influence économique, un appauvrissement de l'Europe. C'est, je crois, ce décalage entre situation européenne et, on va dire, faste de la visite, a pu, non pas choquer, mais rendre tout ça trop théâtral au dépens du sens. Mais reparlons de la Chine, peut-être. Charles Michel, donc, est allé en Chine. Une visite, là aussi, très ambitieuse, sous fond de guerre en Ukraine. Vu des institutions européennes, quelle place Charles Michel occupe-t-il vraiment ? A-t-il vraiment l'influence et la légitimité pour peser dans une discussion en tête-à-tête face au président chinois dans un moment aussi tendu ?
Je pense que tu soulèves une question qui est très importante parce que, tu sais, parfois je me retrouve à Bruxelles dans des réunions ou dans des discussions où les gens, les diplomates, les journalistes, etc., disent alors qui sont les figures les plus influentes au niveau européen. Certains disent Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Plus rarement, certains disent que Charles Michel a une certaine influence. Je dis quand même plus rarement, parce qu'il faudrait quand même avoir du toupet pour oser dire cela. Mais moi, je suis toujours frappé quand j'écoute ce genre de discussion par la déconnexion entre la bulle bruxelloise et le reste, en fait, de l'Europe, celle où on a grandi, celle qu'on connaît. Aujourd'hui, je pense que tu demandes à un citoyen dans la rue, à Clermont-Ferrand, Strasbourg ou en Corse, quel est le rôle exact du président du Conseil européen et qui est-il. Je ne suis pas certain que tu trouves énormément de gens sache qui est Charles Michel et ce qu'il fait vraiment. Et je pense qu'on peut dire la même chose de la présidente de la Commission européenne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien, ça ne veut pas dire que leurs rôles sont dépourvus d'intérêt, mais je pense qu'il y a déjà un premier vrai problème qui est le problème de l'incarnation de l'Europe.
Et alors, peux-tu rappeler en deux mots qui est Charles Michel tout de même ? Parce que je crois que ce n'est pas évident.
Tout à fait. Alors, Charles Michel, c'est un ancien Premier ministre belge qui est aujourd'hui le président du Conseil européen. Et en fait, à la tête de l'Europe, tu as un duo à la tête de l'exécutif européen. D'une part, à la tête de la Commission européenne, tu as donc la Commission européenne étant celle qui fait les propositions au niveau européen, tu as Ursula von der Leyen qui est allemande, et à la tête du Conseil européen, c'est-à-dire cette assemblée qui réunit les 27 États membres, tu as Charles Michel qui a été choisi par ses pairs chefs d'État européens, même si Charles Michel n'est plus aujourd'hui le Premier ministre belge, qui est aujourd'hui président du Conseil européen. Et donc, c'est une fonction qui est souvent mal comprise par nos concitoyens, et à juste titre, parce qu'ils disent « Mais attendez, c'est quoi ce Conseil européen ?» Sachant qu'il y a aussi des présidences tournantes tous les 6 mois de l'Union européenne. Il y a eu la présidence française récemment, aujourd'hui on est sous la présidence tchèque. Et donc, c'est vrai que ce sont des fonctions qui ont du mal à être clairement délimité. Et tu rajoutes par-dessus ça une lutte de personnes où Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, président du Conseil européen, ne manquent jamais une occasion de se tirer dans les pattes. Tu te souviens probablement de la controverse quand il y avait eu la visite à Ankara, où ils avaient rendu visite à Erdogan, le Sofagate, absolument désastreux pour l'image de l'Union européenne et aussi ridicule que terrible, où finalement ils se battaient entre guillemets pour avoir une chaise, etc. Et puis en plus, il faudrait rajouter par-dessus ça la personne qui est à la tête de la diplomatie européenne, qui a ce titre bien connu de haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère de défense et de sécurité, un titre qui est un roman lui-même, Josep Borrell, et donc qui est censé représenter sur le plan de la politique étrangère l'Union européenne. Donc tout ça fait que ça crée beaucoup de confusion, et donc Charles Michel va, en tant que président du Conseil européen, et donc selon lui, représentant les 27 États membres, rencontrer Xi Jinping. Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie question sur est-ce que Charles Michel, aujourd'hui, représente les 27 États membres ? Est-ce qu'il a la légitimité pour le faire ? C'est d'autant plus difficile, dans le cas de la Chine, que je ne suis pas du tout sûr qu'on ait une position commune aujourd'hui au niveau européen sur la Chine. Et puis, tu disais tout à l'heure, une visite qui a beaucoup d'ambition, mais moi, j'avais du mal, entre toi et moi, à voir quels étaient les objectifs clairs avant de la visite. Et quels étaient les... Au fond, qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir ? Alors, on peut dire qu'ils voulaient rencontrer Xi Jinping, c'est une manière de recréer un dialogue. Mais j'avais du mal à voir quels étaient les objectifs. Et tout ça, comme tu le sais, dans un contexte qui a été rendu encore plus compliqué par pas mal d'événements récents en Chine.
Mais qu'est-ce qui relève de son mandat réel, Charles Michel ? Voilà, est-ce que les chefs d'État européens, chef de gouvernement, lui donne mandat pour discuter en leur nom avec le président chinois. Et bon, dans ce cas-là, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qui relève aussi de l'initiative personnelle pour s'affirmer dans la lutte de pouvoir que tu évoquais entre les différentes institutions pour se faire mousser ? Et là, je crois qu'il peut avoir un danger lorsque, on va dire, un certain ego, voire une certaine hubris pour défendre sa position, son rôle, sa communication, prend trop d'espace et prend des initiatives de cette sorte. Parce que je parlais d'ambition. L'ambition était de dire, était annoncée comme la suivante. L'Europe parle entièrement unie à la Chine. Alors, primo, comme tu l'as rappelé, l'Europe n'est pas unie, ne fait pas front uni sur cette question parce que les différents États membres ont, malheureusement peut-être, mais ont des intérêts différents sur ce point, notamment pour des questions commerciales. Et deuxièmement, l'Europe, aujourd'hui, n'est pas forcément perçue par ces grands empires, ces grandes puissances, comme une entité en tant que telle, toujours. En mode, il est plus efficace pour eux, plus porteur, si tant est qu'il y a un intérêt, de discuter avec le chancelier allemand ou avec le président français, plutôt qu'avec un individu dont la légitimité est faible et la notoriété quasi inexistante.
Alors, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec toi là-dessus. Pourquoi ? Bon, d'abord, si on revient à ta première question sur le pourquoi est-ce qu'il y va, lui te dira qu'il y a eu un certain nombre de discussions au niveau du Conseil européen, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État et de gouvernement récemment sur la Chine, et que donc il y avait non pas une vision nécessairement commune, mais tout du moins un certain nombre de questions qui avaient été posées, qu'il partait avec ce mandat des autres chefs d'État et de gouvernement européens. Bon. Ensuite, moi, la question que je me pose, c'est quel est notre intérêt à nous, Européens ? Et l'intérêt aujourd'hui, face à un pays comme la Chine, c'est clairement d'avoir une voix unie. Donc moi, je pense qu'il est absolument indispensable d'avoir une diplomatie européenne unique par rapport à un pays comme la Chine. Qu'il est indispensable d'avoir des gens qui représentent l'Union européenne, le bloc, et qui sont capables de porter un seul message. Si on commence à avoir Scholz qui va voir Xi Jinping, et puis ensuite on a Macron qui y va, et puis ensuite on a la première ministre italienne, et puis etc., etc., c'est extrêmement aisé pour les Chinois de nous diviser entre nous, entre Européens. Et de la même manière, par ailleurs, aux États-Unis. On pourrait dire la même chose, d'ailleurs, de la visite aux États-Unis. Et donc, que tu aies une voix commune qui porte un message européen auprès de Xi Jinping, moi, je pense que c'est indispensable. Ensuite, la question, c'est plutôt, qui est cette voix européenne ? Et là, aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'il y a un déficit de légitimité démocratique incontestable chez un Charles Michel, mais que tu retrouves aussi chez une von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, et on avait parlé notamment au moment du discours sur l'état de l'Union, du fait, bah, par définition, elle n'est pas élue, etc. Donc ça, c'est une vraie question. Et puis, deuxièmement, il y a la question aussi du charisme et du poids de la personne. C'est-à-dire que si la personne, entre guillemets, dans un rôle de président du Conseil européen, essaie de prendre des initiatives personnelles, pas par hubris, mais parce qu'il considère que c'est la meilleure manière de défendre l'Europe et l'intérêt général européen, je dis bravo. Mais le problème, c'est qu'en fait, vu que nos leaders nationaux ont peur d'avoir des figures qui leur font de l'ombre au niveau européen, ils envoient souvent des gens qui ont assez peu de carrure politique et de poids politique au niveau européen. Et Charles Michel, pourquoi il a été choisi en tant que président du Conseil européen ? C'est qu'un certain nombre de leaders européens, et on sait très bien lesquels, ont considéré que Charles Michel ne leur ferait pas beaucoup d'ombre. Et donc, aujourd'hui, tu te retrouves avec un président du Conseil européen qui n'est pas un leader fort au niveau européen. Et donc, voilà. Donc, c'est pour moi, c'est un petit peu tous les problèmes. Mais sur le fond, moi, je pense qu'on a désespérément besoin de voix beaucoup plus fortes au niveau européen et capables de délivrer un message. Mais alors ensuite, ça suppose, et c'est là où je te rejoins probablement, deux choses. C'est que ces futurs leaders européens qui n'existent pas aujourd'hui aient beaucoup plus de légitimité démocratique. Et deuxièmement, que quand ils vont porter un message, comme ça a été le cas à Pékin ou ailleurs, il y ait d'abord un accord très clair des États membres sur quel est le message.
Tu vois, on se rejoint finalement. Et comme toi, bien sûr, je ne suis pas contre le fait d'avoir une voix commune. C'est tout à fait normal, c'est nécessaire. La question, on en revient toujours à la même, c'est comment créer des institutions européennes démocratiques, qui ont une vraie légitimité démocratique en tout cas, bien identifiées par tous les citoyens en Europe. Est-ce que c'est possible ? À quel horizon ? Comment ? On ne va peut-être pas lancer le débat aujourd'hui. Et puis, et ce sera une heureuse conséquence possible, faire émerger à partir de ces institutions des personnalités assez fortes, assez charismatiques, assez habiles aussi politiquement pour pouvoir incarner ces fonctions. Et aujourd'hui, malheureusement, on en est loin, mais c'est un peu la poule et l'œuf. Je comprends ton raisonnement lorsque tu dis qu'il va bien falloir aussi commencer. Donc le problème, c'est qu'on ne commence pas forcément avec les meilleurs. En tout cas, on a le temps de reparler, parce que je pense que l'année prochaine, qui sera beaucoup plus marquée par les thématiques européennes, même si les élections ne seront qu'en 2024. Il y a un sujet moins politique, mais peut-être plus intellectuel, plus théorique, qui nous a fait réfléchir cette semaine, qui nous a fait parler. Tout part d'un discours que nous avons pu lire cette semaine dans le Figaro, celui de François Sureau sur le courage en politique devant l'Académie française. Alors, je dis nous l'avons lu, moi, effectivement, je l'ai lu, mais toi, tu as eu la possibilité de l'entendre, ce discours, en direct, car tu étais présent lors de cette séance particulière de l'Académie. Un petit rappel, car on l'oublie souvent, mais l'Académie française a deux missions précises. Alors bien sûr, celle de veiller à la langue française et d'écrire des dictionnaires et de protéger la langue, mais aussi, dès son origine, de récompenser la vertu, même si le mot peut être pris dans un sens extrêmement large et peut prêter à débat. Et donc chaque année, il y a une séance particulière de l'Académie, durant laquelle un académicien prononce un discours sur la vertu, et cette année, François Sureau, récent académicien, a souhaité parler du courage. Et au préalable, des récompenses sont remises à des ouvrages dans plusieurs catégories, comme le Grand Prix du roman de l'Académie, remis cette année à Giuliano da Empoli pour le mage du Kremlin, et pour promouvoir des auteurs vertueux, on va dire, talentueux. Dans ce cadre, tu as été lauréat d'un prix, cette année, le prix Eugène Colas, qui récompense l'auteur d'un ouvrage d'histoire. Et tu as été honoré pour ton livre « Henri Kissinger, l'Européen », dont nous avions parlé. Donc déjà, bravo, et bravo, je pense, au nom de tous nos auditeurs. Mais avant de parler du discours de Sureau, est-ce que tu peux, pour ce que tu peux en dire, raconter cette journée l'ambiance sous la coupole?
D'abord, merci beaucoup, Romain. C'est très gentil de ta part. Et alors, je ne sais pas si dans mon cas, c'était la vertu qui était récompensée, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai eu. J'ai été très heureux et puis j'ai eu la chance de vivre cette journée et cette séance à l'Académie française. Alors, je pense qu'il y a d'abord une émotion. Moi, c'était la première fois que j'assistais à une séance de l'Académie française. Il y a une vraie émotion à entrer sous la coupole de l'Institut où siège l'Académie française. C'est quand même une institution qui est remplie d'histoire, qui, et tu le rappelais, a eu un rôle majeur dans la défense de la langue française. Et c'est une langue à laquelle toi et moi sommes extrêmement attachés. Et puis, au-delà de la langue française, c'est notre culture qu'elle défend, l'Académie. Et puis, je pense qu'au-delà de ce rôle purement littéraire, il y a quasiment un rôle politique qui est assigné à l'Académie française, parce que défendre la langue, c'est évidemment un rôle politique. Et puis, tu retrouves, évidemment, quand tu vois les académiciens siéger, tu vois beaucoup d'écrivains qui, toi comme moi, nous ont marqués, nous ont touchés dans leurs écrits. Je ne pourrais pas tous les citer, mais j'ai vu par exemple Amine Malouf, Jean-Christophe Ruffin, Daniel Rondeau, Maurizio Serra, bref, des personnalités dont les écrits nous ont beaucoup touchés. Donc c'était un très beau moment. Et voilà, j'étais effectivement très, très honoré de recevoir ce prix. Ensuite, tu l'as dit, je pense que ce qui était très intéressant, c'était le discours qui a été prononcé par François Sureau sur le courage, qui était j'ai trouvé un très beau discours, qui était un discours, et je vais te laisser en dire quelques mots, qui était effectivement un discours où il ne s'est pas réfugié dans l'abstraction, mais il est revenu pour illustrer sa vision du courage sur 4 exemples. De figures qui, pour lui, incarnent le courage de manière différente, notamment Thomas More, également Auguste Scheurer-Kestner, durant évidemment l'affaire Dreyfus, et puis deux autres figures, André Gide et Jean Cavaillès. Et donc, c'était effectivement un discours qui nous a amené à beaucoup réfléchir.
Oui, mais à l'inverse de plusieurs de ses prédécesseurs, François Sureau n'a pas voulu faire un discours théorique sur le courage, mais un discours plutôt empirique, fondé sur 4 exemples de personnalités qui, pour lui, représentent le courage politique et intellectuel. Alors, tu as mentionné ces 4 exemples de figures plus ou moins connues en France. Ce sont des exemples très personnels pour Sureau, mais bien sûr, il y en aurait beaucoup d'autres. Ce qui est certain, et je trouve que le fait de prendre la question de la vertu et du courage en politique via l'exemple est très pertinente, parce que dans une tradition antique, n'oublions pas que le courage, depuis l'Antiquité grecque, c'est considéré comme une des 4 vertus cardinales, avec la sagesse, la justice et la tempérance. Et puis, c'est une vertu cardinale peut-être encore plus importante, puisque c'est celle qui permet d'enclencher les autres, celle qui donne la force de passer à l'acte, en vue d'une action positive et vertueuse. Sureau parle de la valeur d'exemple parce que dans toute une tradition, on va dire issue de l'école d'Aristote, on apprend la vertu et notamment le courage par l'exercice, par l'entraînement. Et en l'occurrence, c'est quoi l'exercice et l'entraînement lorsqu'il s'agit d'affermir son âme, de comprendre ce qu'est le courage? C'est la valeur de l'exemple. Et je crois que c'était quelque chose de très fort dans l'idéal antique. C'est pour ça que des ouvrages de Plutarque sur la vie des hommes illustres ont nourri tant de personnalités, à la fois dans l'Antiquité, mais même après. C'était un des livres de chevet de Napoléon. Parce que une des manières d'apprendre ce qu'est le courage et ce qu'est la vertu en politique, c'est de se nourrir de tes grands exemples du passé. Et je crois que cela, dans les écoles notamment de commandement militaire, toujours aujourd'hui, on insiste beaucoup sur ces aspects-là, sur cette dimension biographique, on va dire, de l'apprentissage. Peut-être qu'on apprend ça encore bien dans les écoles militaires, on ne l'apprend peut-être pas assez dans des écoles qui aujourd'hui fournissent pourtant beaucoup d'élites, que sont les écoles de management ou alors les écoles d'autres administrations.
Oui, alors ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que François Sureau distingue le courage physique, qui, au moins sous sa forme militaire, pour reprendre ses mots, est un composé où l'individuel se mêle au collectif, et puis le courage moral. Et donc le courage moral, il prend 4 figures, mais qui sont des figures qui, et c'est d'ailleurs intéressant, c'est pas dans leur action politique qu'elles ont exprimé une forme de courage. Thomas More, c'est quand finalement il refuse d'accepter les évolutions conjugales d'Henri VIII. Auguste Scheurer-Kestner, comme je le disais, c'était une figure morale qui, dès le début, s'engage dans l'affaire Dreyfus, un moment où il est probablement un des seuls à croire dans l'innocence de Dreyfus. Gide, il le mentionne parce que Gide, c'était quelqu'un qui était communiste, qui est reçu triomphalement en URSS, prononce des discours devant Staline, etc. Et pourtant, a le courage, lorsqu'il revient en France, de dénoncer ce qui est devenu le communisme dans l'URSS, et dire que finalement, c'est pas du tout, en fait, ce que l'on souhaitait voir apparaître. Et pour reprendre les mots de Gide, qui sont très beaux, lorsqu'il décrit justement ce qu'il a vu, je le cite, « Dictature, évidemment, mais celle d'un homme, non plus celle des prolétaires, des soviets. Il importe de ne point se leurrer, et force est de reconnaître tout net. Ce n'est point là ce qu'on voulait. Un pas de plus, et nous dirons même, c'est exactement ceci que l'on ne voulait pas. » Et ça lui vaudra d'ailleurs la haine de l'humanité qui, au moment de sa mort, stigmatisera le fasciste pédéraste, et je cite évidemment l'humanité, et qui continue en disant « le plus parfait apôtre de la décomposition de l'homme, le cadavre qui vient de mourir », pour montrer toute la haine à l'époque de l'humanité à son égard. Et puis, dernière figure, Cavaillès, grand résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il prend quatre figures qui font preuve d'un courage extraordinaire. Mais ensuite, je me suis beaucoup posé la question, évidemment, la tentation est grande de dire, par contraste, dans notre classe politique, dans nos dirigeants politiques, on ne retrouve pas le même courage. Mais la question que je te pose et que je me pose, c'est de savoir si, pour un responsable politique, le courage se pose également dans ces termes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un responsable politique, il a aussi la responsabilité d'amener l'opinion avec lui, d'amener le peuple avec lui. Et donc, il y a une question, en fait, quasiment de timing dans le courage du politique. Et là où, quelque part, un intellectuel, une figure plus libre, plus autonome, peut faire acte de courage, et parfois qui va lui coûter la vie, mais de manière quasiment plus libre, le politique doit se poser la question de comment tu amènes le peuple avec toi. Et aujourd'hui, notamment, le courage, c'est être capable parfois simplement de dire la vérité, de refuser, à l'inverse des populistes ou d'autres qui essaient d'assigner des vérités faciles aux gens, c'est d'assumer des vérités difficiles. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est toujours le bon moment pour dire une vérité difficile ? Et c'est là où je trouve qu'il y a parfois peut-être... Le courage politique prend une autre dimension.
Ben, de la notion de courage, enfin, sans vouloir être abstrait, mais dès l'Antiquité, dans la vertu du courage, il y avait une notion d'équilibre, bien sûr, très importante. Il y avait une notion de sens du temps, enfin le temps dans le kéros. Donc c'était vraiment l'enjeu, c'est de savoir à quel moment on devait s'opposer, dire non, révéler telle vérité. Donc dans l'origine même du concept de cette vertu, la question du temps est absolument centrale. Et puis, il y a aussi, dès l'origine, toute une réflexion sur le sentiment de liberté, celui d'affronter la pensée dominante, le qu'en dira-t-on ? Ce qui est certain, c'est que le courage n'exclut pas forcément la ruse, et on pourrait citer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples là-dessus. Lorsque le général de Gaulle, alors je parle du général de Gaulle, à son retour en pouvoir en 58, dans le cadre de la guerre d'Algérie, agit tel qu'il a agi, je crois qu'il y avait à la fois une vision de très long terme, extrêmement sage, sur ce que pouvait être la relation entre l'Algérie et la France, mais il a le sens du temps, du kéros, c'est fondamental. N'oublions pas, français, je vous ai compris, pour plus tard faire l'inverse. Donc il y a une grande habileté qui est totalement complémentaire avec une lucidité et un courage, d'autant plus que, là on peut aussi parler de courage physique, de courage politique, les personnes de son camp, ceux qui avaient contribué à le remettre au pouvoir, n'avait absolument pas compris ses intentions sur la question sur la question algérienne. Et puis tu parles du temps. Alors c'est peut-être bon, les exemples de Sureau sont il a une très bonne, une formidable éloquence. Donc on a toujours tendance à être très séduit par ce qu'il dit. Moi sur l'exemple de Gide, je serais un peu plus prudent parce qu'effectivement Gide a dénoncé avec force le stalinisme, mais il n'a pas renié non plus les concepts très dangereux et qui se sont révélés catastrophiques partout de soi-disant dictature du prolétariat, etc. Donc effectivement sur Gide, je crois que j'apprécie beaucoup moins que toi. Juste pour revenir sur ce que tu disais sur la question de temps, d'équilibre et dans notre classe politique aujourd'hui. L'opposé du courage, le contraire, c'est la lâcheté. Peut-être qu'en Europe et en France en particulier, si nous avons des mouvements d'affaissement, un désordre, une médiocrité, c'est peut-être aussi parce que nos élites, depuis plusieurs décennies, n'ont pas toujours eu ce courage intellectuel d'énoncer certaines vérités pour privilégier, disons, un air du temps et un politiquement correct médiatique.
Mais là où je te rejoins complètement, c'est que, tu sais, j'ai beaucoup d'admiration. Enfin, l'admiration, c'est peut-être pas nécessairement très populaire de le présenter ainsi, mais j'ai beaucoup aimé les écrits d'Ayn Rand, et notamment La Grève et surtout La Source Vive. Et je trouve qu'il y a, par exemple, dans le personnage d'Howard Roark, cet architecte, personnage central de La Source Vive, moi, toujours une figure que j'ai admirée, c'est-à-dire ce caractère incroyablement indépendant, cette figure qui ne s'occupe pas alors du tout de l'air du temps, pas du tout de ce qu'il faut penser, et va au bout de ses convictions. Il y a une forme d'indépendance intellectuelle, d'honnêteté intellectuelle, quasiment, et de foi dans ses propres convictions, que je trouve assez extraordinaire dans les personnages d'Ayn Rand. Et alors, je sais que c'est une philosophe qui a beaucoup plus nourri la pensée outre-Atlantique que chez nous, où elle est, je trouve, caricaturée. Et voilà, mais j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour ses écrits et ses personnages. Et finalement, ce que tu décris et ce qui manque probablement à nos grands hommes, c'est Talleyrand qui disait il y a trois choses nécessaires pour former un grand homme. Il y a la position sociale, mais il savait bien de quoi il parlait. Il y a ensuite la capacité et les qualités. Là encore, il savait bien de quoi il parlait. Et puis, troisièmement, et alors là, on peut peut-être être un petit peu plus dubitatif quand on parle de Talleyrand, même si c'est un grand homme, il disait, mais surtout et avant tout, le caractère. C'est le caractère qui fait l'homme. Et là, je crois qu'effectivement, tu as un vrai sujet dans notre société actuelle, c'est que tu as de moins en moins de responsables, notamment dans la sphère politique, mais dans d'autres sphères également, qui ont un caractère. Et ce caractère, comment on peut le définir ? À mon avis, c'est une forme de colonne vertébrale. Et c'est cette colonne vertébrale qui te permet, à un moment donné, quel que soit l'air du temps, de poursuivre, en fait, tes convictions. Mais pour ça, il faut avoir une colonne vertébrale intellectuelle qui se crée dans le temps, et puis une colonne vertébrale faite de convictions qui sont aussi le résultat de ta vie personnelle, de tes échecs, des souffrances que tu as eues, etc. Tout ce qui te permet de te construire en tant qu'homme, en fait. Et homme avec un grand H, évidemment. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et je pense que ce qui est en fait terrible dans notre classe politique et dans notre scène politique, c'est que, en fait, tu as de moins en moins de gens qui se sont dotés de cette colonne vertébrale qui y vont. Et alors, on pourrait, ça serait une longue discussion, pourquoi, etc. Il y a plein de facteurs, et on en a souvent parlé tous les deux, mais c'est ça le vrai danger, parce qu'au fond, ta démocratie a besoin quand même de gens qui ont cette colonne vertébrale, surtout dans des temps incertains comme ceux que l'on traverse aujourd'hui.
Et puis pour boucler la boucle, provisoirement, de notre raisonnement en tout cas, revenons au texte, aux définitions. Pour Platon, la République, le courage, c'est la vertu qui permet de mettre en œuvre les décisions issues de la délibération. Et je crois que ce que tu décris pour l'individu, on le retrouve aujourd'hui malheureusement pour l'État. L'État n'exécute plus. L'État s'occupe de beaucoup de choses, et Tocqueville déjà en parlait, à vouloir régenter les mœurs, mais il exécute de moins en moins. Et c'est ça, à mon avis, un des vrais problèmes de notre organisation politique aujourd'hui en France. En tout cas, on conseille la lecture de ce très beau discours. C'était dans le Figaro, je crois, de jeudi dernier. Et ça fera réfléchir. Et puis, je crois que chacun peut nourrir ces exemples de personnes incarnant le courage. Moi, je t'avoue que c'est un exemple qui est extrêmement classique. Et je trouve qu'au XXe siècle, une personnalité comme Churchill illustre magnifiquement cette notion. D'autant plus que c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été courageux. Il lui-même a parfois louvoyé, mais dans les grandes circonstances, notamment dans la plus grande circonstance possible, celle de la guerre, non seulement il a fait preuve d'un courage contre une classe politique anglaise et même parfois certains membres de la famille royale qui étaient prêts à abandonner, tout simplement. Donc il a su jouer contre son camp et puis surtout, par la force de son discours, la politique c'est quand même avant tout aussi la force des mots, il a insufflé le courage à toute une nation et bien au-delà. Donc je trouve que c'est un exemple qui est certes classique, mais qui à mon avis est au moins au XXe siècle l'exemple le plus magnifique de courage politique.
Tout à fait, et puis en citant Churchill, et tu connais l'admiration que j'ai pour ce personnage, tu nous rappelles aussi que le courage appartient parfois à des personnes qui ne passeraient probablement pas entre les fourches codines de la morale actuelle. Parce que je pense que Churchill ne résisterait pas un seul instant au tribunal de l'opinion médiatique, etc., actuelle et de l'hypertransparence. Évidemment, une autre figure que j'aurais aimé citer, mais dont on parlera peut-être une autre fois dans un style complètement différent, mais c'est Élie de Saint-Marc, immense soldat, et qui je trouve, est allé à payer d'ailleurs le fruit de ses convictions. Et c'est un autre exemple de courage. Mais Romain, le temps est désormais venu de parler de nos coups de cœur de la semaine. Et je crois que toi, alors en l'occurrence, tu veux nous parler d'une civilisation qui a, comme tu l'as rappelé il y a un instant, beaucoup promu la vertu.
Oui, la civilisation romaine, et je veux te parler plus précisément du documentaire de Frédéric Wilner, Qui a tué l'Empire romain, que l'on peut voir actuellement sur Arte. Alors, l'interrogation sur les causes de la chute lente, progressive, mais tout de même spectaculaire de l'Empire romain, occupe de nombreux esprits depuis la Renaissance, Montesquieu notamment, avec ses considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ce grand classique. La question, c'est la suivante, comment un tel empire, une telle organisation politique et une telle civilisation aussi dominante sur l'Europe, sur le Proche-Orient, sur l'Afrique du Nord, comment cette civilisation a-t-elle pu s'effondrer ? Alors, traditionnellement, dans la littérature, dans l'historiographie, de nombreux facteurs sont évoqués pour justifier, expliquer cet effondrement. Des mœurs politiques et civiques plus que déclinantes, un poids trop important de la bureaucratie, une crise monétaire, même l'influence du christianisme, bien sûr, a été évoquée. Mais l'originalité de ce documentaire, qui est raconté comme un vrai polar scientifique, c'est de parler quasiment de tout, sauf de politique. Et donc ça évoque des causes jusqu'ici très peu mentionnées, grâce à des nouveaux éléments obtenus grâce à la science, et notamment grâce à la biologie. Donc je vais être, pour résumer, il faut voir ce très bon documentaire, mais les causes sont principalement des causes épidémiques et climatiques. C'est fascinant parce qu'en se fondant sur l'analyse d'ossements découverts il y a très peu de temps, à la fois dans Rome et dans de nombreuses parties de l'Empire, des scientifiques, des archéologues nous racontent comment une gigantesque épidémie de peste va, dès le règne de Marc Aurèle, donc on est en 167 après Jésus-Christ, décimer la population de l'Empire et principalement ses armées. Ce qui va non seulement amoindrir les capacités militaires de l'Empire, rallonger les guerres, et puis encourager les populations barbares de l'Est de l'Europe à multiplier leurs assauts. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, on le savait un peu, plus ou moins, mais pas dans cette dimension. Mais l'analyse des bois fossilisés dans les forêts de l'Altaï. C'est une chaîne de montagnes entre Russie, Chine, Kazakhstan et Mongolie. Je crois que tu es allé pas loin, en tout cas. Je crois que tu avais raconté.
Oui, je te confirme.
Oui, donc c'est un endroit qui a l'air assez fascinant. Mais ces grandes forêts montrent qu'un fort épisode de réchauffement climatique, alors non lié aux avions et l'activité humaine pour le coup, au 4e siècle après Jésus-Christ, a provoqué des forts mouvements d'exode de ces populations nomades, comme les Huns, qui vivaient dans les régions de l'Ouest, de l'Est, de l'Eurasie, et qui se sont déplacés vers l'Ouest parce qu'elles ne pouvaient plus tout simplement avoir une vraie agriculture et donc se nourrir. Et puis tout ça a déclenché les invasions barbares. Et puis dernier point, très fascinant, le documentaire va au-delà de 476, qui est la date qu'on retient généralement pour marquer la fin de l'Empire romain d'Occident, parce que au siècle suivant, il faut rappeler que l'empereur d'Orient, Justinien, a tenté une grande opération de reconquête pour recréer ce grand empire romain à partir de Rome. Et tout cela, cette reconquête était très victorieuse, et puis ça s'arrête de manière très brusque, et très mystérieuse, avec des récits des témoins de l'époque qui parlent d'une longue nuit de plusieurs mois en Europe. Et donc la science, maintenant, permet d'expliquer cela. Il y aurait eu une série de grandes explosions volcaniques en Islande, tellement importantes, un peu comme il y avait eu il y a une douzaine d'années en Europe, je crois que c'était en 2010, mais tellement importantes cette fois-ci, qu'elle a plongé tout le continent européen et une partie de l'hémisphère nord dans une grande nuit. Donc là, il faut imaginer toutes les conséquences. On vit dans une nuit quasi permanente, donc catastrophe agricole, affaiblissement des populations, affaiblissement économique, affaiblissement de nos santé, ce qui a malheureusement causé un affaiblissement de nos systèmes immunitaires. Et lorsque des épidémies venues d'Égypte sont arrivées quelques années plus tard, et ben elles ont décimé, anéanti près d'un tiers de la population de l'Empire, et là c'était fini. Donc tout ça, ces perspectives sont passionnantes parce qu'elles montrent bien que les causes des évolutions politiques et géopolitiques sont bien nombreuses et peuvent reposer aussi sur le climat, sur la santé, Bien sûr, ce documentaire a été produit pendant le Covid et dans une période où le réchauffement climatique est en haut de l'agenda médiatique et pour cause. Donc cela peut nous faire penser qu'à nouveau, on parle beaucoup d'équilibre géopolitique, mais ils seront de nouveau totalement redistribués pour des raisons hors politique également. Toi, Jérémy, c'est ton coup de cœur était beaucoup plus littéraire.
Oui, plus littéraire et plus léger, cher Romain. Il s'agit d'un texte intitulé « Les deux rives » de Roger Grenier, qui a été publié à titre posthume, puisque Roger Grenier est décédé en 2017. Et c'est un recueil de petits textes, de portraits du monde littéraire de l'après-guerre. C'est truculent, pétillant, c'est plein d'anecdotes savoureuses, comme savait les conter Roger Grenier. Et puis, il nous plonge dans cette après-guerre où, finalement, il y avait une forme de climat d'insouciance, où tout était permis, et un parfum de liberté qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Bref, c'est un petit texte plein d'humanité et qui est magnifique, qui est publié aux éditions Gallimard. Mais surtout, ça permet de revenir sur cette figure de Roger Grenier, qui est une figure finalement aujourd'hui très peu connue. C'est un parcours assez incroyable, parce que c'est quelqu'un qui, né en 1919, puis en fait très jeune, se retrouve pris dans la Seconde Guerre mondiale, s'engage dans la Résistance, participe en 1944 à la libération de Paris, et notamment à la libération de l'Hôtel de Ville de Paris. Et puis là, en fait, cette plongée dans le monde de la Résistance va lui permettre ensuite de faire le saut dans toute cette profusion de journaux qui vont naître à la Libération. Et puis notamment, une rencontre qui va changer sa vie, c'est la rencontre avec Albert Camus, puisque Albert Camus, alors que Grenier n'a que 24 ans, le fait rentrer à combat. Et puis auprès d'Albert Camus, il va tout apprendre. Et il passera quelques années à combat, et puis ensuite il rejoindra François, alors pas le François d'aujourd'hui, hein, mais le François de la grande époque, celui qui était dirigé par Pierre Lazareff, grand homme de la presse d'après-guerre. Et puis ensuite il rejoindra Gallimard et rentrera au comité de lecture en 1971. Il sera jusqu'à sa mort, donc en 2017. Il connaîtra toutes les grandes figures de la littérature de l'après-guerre. Il sera ami avec Gary, avec Kessel, avec Roger Caillois, avec Claude Roy. Et puis, évidemment, la figure centrale pour lui, ça demeurera Camus, auquel il consacrera dans les années 80 une très belle biographie. Grenier, c'était aussi un spécialiste de Tchekhov. C'était quelqu'un qui a écrit des ouvrages, dont un a eu le prix Femina, signé roman en 72. Et puis, il partageait avec toi une passion, Romain. Il partageait la passion de Paris. C'était un amoureux de Paris. Alors, il a vécu dans plein de quartiers de Paris. À la fin de sa vie, il vivait dans un petit appartement rue du Bac. Et d'ailleurs, juste à côté de Gary, d'ailleurs, quand Gary descendait à Coutray de manière très originale, Grenier le retrouvait, il discutait, etc. Ils étaient très proches. Et puis, il parcourait les quelques centaines de mètres qui l'amenaient chez Gallimard, où il allait tous les jours lire des manuscrits. Et puis, il a cette phrase. Il dit, on l'interroge sur son amour de Paris, il dit, vous savez, les provinciaux comme moi se sentent plus parisiens que les Parisiens. Je ne sais pas si tu partages cet avis, Romain. Mais en tout cas, il a consacré un ouvrage, Paris, ma grande ville, en 2015, où il parle de son amour pour cette ville que tu aimes tant. Et donc voilà, et c'était une manière pour moi de rendre hommage à cet écrivain qui est un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui a une très belle plume. Et en tout cas, Les deux rives, ce petit recueil de textes est truculent et je vous le conseille vivement.
Merci Jérémy, il y aurait beaucoup à dire sur Paris et tout ce que Paris peut attirer ou aujourd'hui même parfois repousser. Mais en tout cas, toujours envie de défendre cette ville malgré tout. On en reparlera dans des prochains épisodes, probablement. Bonne semaine Jérémy et bonne semaine à tous nos auditeurs.
Bonne semaine, à la semaine prochaine.